Sandra Viscardi.
L'avis est publié ce matin à la feuille officielle suisse du commerce. L'entreprise baloise Prime Energy Cleantech a officiellement été déclarée en faillite. Des centaines de Romands ont investi dans cette société spécialisée dans les installations photovoltaïques en Europe et ils craignent de ne pas pouvoir récupérer leur argent. La date d'ouverture de la faillite a été établie au 14 novembre. Les communes neuchâteloises protestent contre la nouvelle baisse d'impôt de 1% pour les personnes physiques prévue pour l'année prochaine. Elles ont envoyé une lettre au Conseil d'État et aux députés, lesquels se pencheront sur cette diminution lors de la prochaine session du Grand Conseil, les 3 et 4 décembre, session consacrée au budget. La Chine appelle ce matin à la paix en Ukraine. Cette dernière a été autorisée par Washington, selon un responsable américain, à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée fournis par les États-Unis. Pékin demande un cessez-le-feu rapide et une solution politique. Et un député russe assure, lui, que cette autorisation de Washington à Kiev d'utiliser des missiles américains à longue portée en Russie ne changera rien à la conduite par Moscou de ses combats avec l'Ukraine. Les objectifs du président Poutine seront remplis, assure Andrei Kartapolov, le président de la commission défense de la chambre basse du Parlement russe. Le président du Sri Lanka, Amura Kumara Dissanayake, détiendra les portefeuilles clés de la défense et des finances dans le nouveau gouvernement présenté ce matin. Après la large victoire de sa coalition aux élections législatives, il s'est engagé à réduire les taxes sur les produits de première nécessité et à éradiquer la corruption, s'attirant un large soutien de la population. Les écoles de New Delhi tiennent leur cours à distance dès aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de deux niveaux de lycée. Les autorités ont pris cette décision en raison d'une aggravation de la pollution de l'air. Les niveaux de particules fines qui ont atteint hier les chiffres 57 fois supérieurs aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé à New Delhi restaient ce matin à l'aube 39 fois au-delà des seuils désirés. Les feux de la colère, la France paysanne dans les rues de l'Hexagone pour s'opposer à l'accord que Bruxelles entend signer avec les pays du Mercosur. 85 points de manifestation sont en train de se constituer à l'appel des syndicats agricoles, mais il ne devrait pas y avoir de blocage comme ceux de l'année dernière. Les barrages seront filtrants, les préfectures seront prises pour cible. L'équipe de Suisse de football dispute ce soir en Espagne son dernier match de l'année, une partie sans grand enjeu sportif au niveau de la Ligue des Nations puisque la Suisse est déjà reléguée. Premier coup de sifflet à 20h45 à Tenerife, un match à suivre dès 20h à l'enseigne de Sport Première sur la Première et sur RTS2. En voile au Vendée Globe, Sam Gulscheid a repris la tête hier soir et cette nuit il a creusé son avance. Il a désormais 43 000 d'avance sur son premier poursuivant Sébastien Simon. Côté Suisse, le jeune voile Alain Roura 14e, Justine Métro 17e et Oliver Fair est 34e. Il avait collaboré avec Edith Piaf pour laquelle il a composé Je ne regrette rien. Le chanteur français Charles Dumont est décédé. Il avait 95 ans avant de se mettre lui-même à pousser la chansonnette. Il avait aussi écrit pour Dalida, Gloria Lasso, Tino Rossi ou encore Luis Mariano, un chanteur, auteur, compositeur qui avait aussi collaboré avec Barbara Streisand. Il est mort des suites d'une longue maladie à son domicile. La dernière journée calme de la semaine, elle sera grise mais calme avec des éclaircies en Valais, 10 degrés au thermomètre. Dès demain, plus froid, venteux et précipitations.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avec la RTS, célébrons la passion de l'audiovisuel. L'inspectrice Aurélie Mercier doit rapatrier Florian, arrêté pour meurtre sur un cargo suisse.
Florian Bonnel, ça te dit quelque chose ? On l'a retrouvé, sur un cargo de la marine marchande suisse.
Elle apprend que la petite amie du jeune homme, qui a disparu depuis des semaines, était elle aussi passagère du cargo. Que s'est-il passé à bord ? Aurélie va tout tenter pour faire éclater la vérité. La nouvelle série RTS, à voir dès le 21 novembre sur RTS 1 à 21h et sur l'application PRTS.
CQFD.
Et c'est reparti pour une nouvelle semaine de sciences et de santé dans CQFD. Au sommaire aujourd'hui, les glaciers en actu avec vous Stéphane Delétraux.
Oui, les glaciers qui fondent peut-être plus que ce que l'on croyait. Une nouvelle approche préconise de regarder chaque glacier avec ses particularités pour être au plus près de la réalité.
Bastien Confino, bonjour. Bonjour. Avec vous, on garde le bonnet, les moufles hein, pendant qu'on y est.
Oui, on va aller au Groenland. Une exposition sur cette île vient d'ouvrir au musée alpin suisse à Berne avec comme thématique le changement parce qu'en fait, tout change au Groenland.
Et en fin d'émission, Stéphane Delletro toujours, quand un scientifique s'essaye au roman, ça donne quoi?
Eh bien, ça donne un polar scientifique intitulé La corne d'amont, les mystères du cerveau, une manière ludique d'aborder un thème grave, la maladie d'Alzheimer.
CQFD, c'est ici et maintenant jusqu'à 11h. Bonjour et bienvenue.
CQFD, le magazine scientifique et médical de RTS La Première, Anne Bécher.
Alors, vous le savez sûrement, sinon vous n'étiez pas sur cette planète si vous le savez pas. Hein. Nos glaciers fondent comme neige au soleil dû au réchauffement climatique. Une étude le confirme et propose surtout une nouvelle méthode d'analyse afin d'obtenir des estimations plus proches de la réalité. Des résultats, c'est vrai, peu réjouissants à découvrir dans la revue The Cryosphere. Je crois que c'est comme ça qu'on dit avec le bon accent, hein.
Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qu'il va rester de nos glaciers d'ici 2100? Pour prédire l'évolution future de la perte de masse des glaciers, les modèles glaciologiques utilisent des moyennes régionales. Or, cette nouvelle approche préconise de regarder chaque glacier avec ses particularités. Menée sur 200 000 glaciers, c'est-à-dire l'ensemble des glaciers du monde, cette étude révèle que si on affine cette approche en calibrant chaque glacier individuellement, les résultats sont bien plus marquants puisque certains glaciers perdent plus de glace que ce que la moyenne régionale suggère. Par exemple, le glacier de l'Outerrar, dans le canton de Berne, pourrait perdre jusqu'à 94% de son volume d'ici 2100, alors que dans l'ensemble des Alpes, la perte est évaluée à 75%. Cette fonte des glaces n'est pas sans conséquence sur la disponibilité en eau, le niveau de la mer, la biodiversité ou la stabilité des écosystèmes.
Bonjour Harry Zekolari, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le premier auteur de cette étude. Vous êtes glaciologue, professeur de recherche associé au sein du département eau et climat à la, alors, on a discuté ce matin un peu sur la prononciation, à la Vrije Universiteit Bruxelles, c'est juste?
C'est pas mal de Vrije Universiteit Bruxelles. C'est l'université libre de Bruxelles, mais que des néerlandophones.
Parfait, merci. Alors, comment est-ce que vous y êtes pris pour calibrer ou avoir des données pour chacun des 200 000 glaciers?
Mais en fait, pour avoir des observations sur 200 000 glaciers, donc sur tous les glaciers sur Terre, on va travailler avec des observations satellitaires. C'est impossible d'aller sur chaque glacier individuellement. Donc on travaille avec des observations satellitaires. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer comment les glaciers ont changé. Et dans nos modèles, c'est des lignes de code, on va essayer de reproduire ce qu'on observe sur le terrain. Et une fois que ça a été réalisé, cette phase qu'on appelle la calibration, typiquement on va faire une validation, donc avec des données indépendantes, voir si le modèle fonctionne bien. Et une fois que c'est fait, on a fait une sorte de contrôle de qualité, et là on peut vraiment faire des projections futures.
Alors les émissions de gaz à effet de serre jouent un rôle central dans vos projections de fonte des glaciers. Selon les émissions futures, les glaciers pourraient perdre entre 25% de leur masse d'ici 2100. Alors ça, c'est un scénario optimiste. Et jusqu'à 50%, ça, c'est, vous semble-t-il, plutôt le scénario vers lequel nous dirigeons?
Je pense qu'on est en train d'aller entre les deux. Au moins, c'est dans la direction que la politique évolue. Pour mettre ça un peu en perspective, l'accord positif ou le moins négatif, ça c'est si on suit l'accord de Paris, donc l'accord de Paris en 2015, qui essaye de limiter le réchauffement de la Terre à 1,5 à 2 degrés. Ça c'est comparé aux valeurs pré-industrielles. Donc il faut déjà garder en tête, c'est pas comparé à aujourd'hui, on est déjà à plus 1,1. Mais donc plus 1,5 à plus 2, ça c'est positif. Le pire des cas, c'est 4 à 5 degrés. Et là, on dirait qu'on est en train de se diriger vers plus ou moins un réchauffement de 3 degrés en 2100, ce qui ferait entre les deux. Donc, on aurait plus ou moins un tiers, entre 25 et 30%, donc 30 à 40% de perte des glaciers globales quand on regarde leur masse.
Alors, au-delà des émissions de gaz à effet de serre, votre étude montre aussi que, finalement, plus on est précis, plus on a de données, plus le résultat est catastrophique. Mmh.
Oui, en partie. C'est en effet ça qu'on voit. On voit qu'en fait, on utilise des nouveaux jeux de données. On a de plus en plus d'observations satellitaires avec lesquelles c'est ça qui change. On peut vraiment voir par glacier les pertes qu'on a. Et on voit qu'il y a des pertes qui sont énormes. Et donc, c'est aussi en partie vraiment lié à ce jeu de données. Plus qu'on voit des pertes actuelles, nous, on va calibrer nos modèles, on va changer les paramètres pour reproduire ça. On aura plus de pertes dans le futur, dans les projections qu'on fait. Mais on voit aussi que nos résultats sont en partie liés à nos modèles. Donc, dans cette nouvelle étude, on a combiné trois modèles qui sont assez sophistiqués. Et là, on voit que les pertes sont un peu plus élevées que ce qu'on avait dans le dernier rapport du GIEC. Mmh. Et donc, c'est probablement en partie liée aux observations et en partie aussi à nos modèles qui sont légèrement différents que les modèles qui ont été utilisés dans le dernier rapport du GIEC.
Et dites-nous au moins qu'il y ait certains glaciers qui sont plus résilients que d'autres, histoire de garder un peu d'espoir. Et si oui, si c'est le cas, nous donner un exemple.
Oui, tout à fait. Il y a des glaciers qui vont mieux résister. On voit par exemple que nous, on est dans une... Et quand je parle nous dans les Alpes, en Europe, la situation est assez dramatique. Vous aviez déjà dit le chiffre. On va perdre plus ou moins 75% ou plus des glaciers. Donc, dans les Alpes, malheureusement, on va perdre une grande partie. Peut-être qu'on gardera encore un tout petit peu vraiment haut dans les montagnes. Mais on voit qu'il y a des autres régions sur Terre où les glaciers sont plus résilients, où ils ont des temps de réponse qui sont plus longs aussi. Donc, en fait, un glacier a besoin d'un certain temps pour réagir au réchauffement climatique. Et on voit qu'il y a des régions où les glaciers réagissent de façon un peu plus lente. Et là, on voit que dans le 21e siècle, les pertes seraient encore limitées. Là, on pense par exemple des zones polaires. Donc, je ne parle pas des calottes, mais par exemple en Alaska, Svalbard, en Russie, on a aussi des gros glaciers et ceux-là, ils pourraient mieux résister. Mais même aussi quand on pense à haute altitude, par exemple dans l'Himalaya, par exemple, il y a quand même des glaciers qui vont savoir mieux résister. Mais la réalité est que chez nous, en Suisse, en Europe, on va perdre quand même une grande partie des glaciers entre maintenant et 2100.
Oui, vous avez évoqué ce chiffre de 75% et de manière rapide, mais pour quelles raisons les glaciers alpins, donc les nôtres, sont ceux qui perdent le plus de glace?
En fait, ils ont un déséquilibre énorme. Ils représentent encore des conditions climatiques du passé, donc une époque où il faisait vraiment plus froid. Entre-temps, il y a un gros réchauffement et ils réagissent de façon plus rapide. On voit en fait que les glaciers, le temps de réaction dépend fortement de leur raideté. Si c'est des glaciers qui sont plutôt plats et gros, ils vont réagir de façon un peu plus lente. S'ils sont plus petits, ce qui est le cas dans les Alpes, au moins quand on compare aux autres régions, ils réagissent de façon plus rapide. Et donc, c'est malheureusement une probabilité que dans les Alpes, quand on pense à nos enfants, nos petits-enfants en 2100, ils vont plus voir des glaciers ou en tous les cas des glaciers qui sont très petits. Ça dépendra encore du réchauffement qu'on va avoir, donc ce cas positif ou négatif. Mais heureusement, il y aura des autres régions sur Terre où les glaciers vont survivre un peu mieux, au moins d'ici 2100. C'est souvent des glaciers qui vont perdre plus de volume au 22e et au 23e siècle. Donc c'est vraiment des glaciers qui réagissent sur des échelles de temps très prolongées.
Une question que je suis sûr brûle d'envie de poser notre prochain invité. Pourquoi votre étude ne prend pas en compte les calottes d'Antarctique et du Groenland?
En fait, ça serait une étude différente. C'est des études qu'on fait aussi. Nous, on a vraiment essayé de se focaliser sur tous les glaciers sur Terre, sur les 200 000 glaciers. Mais c'est sûr que les calottes, celles de l'Antarctique et du Groenland, elles réagissent aussi au réchauffement climatique. Elles perdent aussi du volume. En fait, elles ont beaucoup plus de volume, mais elles réagissent de façon plus lente, donc à des échelles temporelles plus longues. Et en fait, on voit que aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a beaucoup plus de volume dans les calottes, donc en Antarctique ou au Groenland, comparé aux glaciers, comme les glaciers réagissent plus vite, en fait, ils ont une contribution, par exemple, importante à la hausse du niveau des mers. Moi, je suis glaciologue belge, donc en Belgique, souvent j'ai la question « Pourquoi est-ce que tu étudies des glaciers ? Il n'y a pas de glaciers ?» Mais pour la Belgique, c'est très important, par exemple, pour la hausse du niveau marin. Et là, on voit qu'il y a environ un tiers de la hausse du niveau marin aujourd'hui, donc ce qui correspond à 1 à 1,5 mm par an, qui vient vraiment de la fonte de ces 200 000 glaciers sur Terre.
Vos données, donc, qui sont plus précises, est-ce qu'elles permettent aussi de mieux évaluer les dispositifs à mettre en place, par exemple, pour faire face à la sécheresse dans des régions qui dépendent des glaciers pour leur approvisionnement en eau?
Oui, tout à fait. Les glaciers sont vraiment importants. Un glacier, en fait, c'est quelque chose d'unique. Un glacier, s'il est sain, s'il n'y a pas de réchauffement climatique, vient toujours un peu plus grand en hiver, plus petit en été. Plus grand en hiver, plus petit en été. Et c'est magnifique parce qu'il apporte l'eau pendant la période de l'année dont on a le plus besoin. Donc, typiquement en été. Qu'est-ce qu'on voit avec le réchauffement climatique? Avec le réchauffement climatique, les glaciers fondent. Donc, au début, les gens vont avoir encore plus d'eau car le glacier fond. Mais en fin de compte, si le glacier fond, ou dans un cas extrême, s'il disparaît tout à fait, mais en été, il ne pourra plus ramener de l'eau dans les vallées. Et donc, on voit que les gens vont devoir se préparer. Et nos études permettent en effet de quantifier l'apport en eau qu'il y aura dans les vallées, éventuellement essayer de se préparer, créer des réservoirs qui peuvent un peu remplacer ce rôle des glaciers qui relâchent l'eau vraiment au bon moment de l'année. Mais donc, on espère en tous les cas que nos études peuvent servir pour se préparer pour les changements qu'il y aura. Pour la Belgique, c'est là aux niveaux marins. En Suisse, par exemple, c'est aussi pour la production d'électricité. qui se fait en grande partie avec des barrages. Et là aussi, si le glacier change, l'apport en eau va changer. Mmh. Et la quantité d'électricité qu'on peut générer va aussi. Donc, en fait, c'est une problématique qui dépend de région en région. Mais on espère que nos études peuvent vraiment aider. On essaie vraiment de quantifier. On applique des maths et de la physique sur le système Terre. On dit, voici les résultats. Et puis, on espère en effet que la politique puisse suivre et qu'on voit aussi que les gens vont s'adapter à ça.
Alors, en parlant de région, vous partez la semaine prochaine pour une expédition en Antarctique, hein, pour nous ramener quoi? Encore des mauvaises nouvelles? Ou est-ce que... Donnez-nous un peu d'espoir, quelque chose d'un peu plus joyeux.
Voilà. Tout à fait. Donc, dimanche, on part en Antarctique pendant 7 semaines. Donc, on sera là pour Noël, Nouvel An. La raison pour laquelle on part maintenant, c'est parce que c'est l'hiver ici, à Antarctique, hémisphère sud. Donc, c'est l'été là-bas. Donc, il fait un peu moins froid. C'est une recherche. Moi, typiquement, je l'appelle un peu plus Indiana Jones. On va à la recherche d'un trésor en Antarctique. En fait, on va à la recherche de la glace très ancienne. On sait que si on trouve de la glace ancienne, il y a des bulles d'air dans la glace. Et ces bulles d'air contiennent vraiment l'air du passé. Donc, on peut trouver des bulles d'air qui ont des centaines de milliers d'années. Et là-dedans, on peut vraiment regarder les concentrations, par exemple, en gaz à effet de serre, en CO2. Et donc, pour nous, l'objectif, c'est essayer de trouver de la glace très ancienne. Et c'est ça que je dis, c'est un peu une carte trésor. On va aller sur le terrain, on a des indices où la glace pourrait être ancienne. Et puis, on va vraiment essayer de trouver de la glace ancienne. C'est une première mission préparatoire. Et puis on retournera dans un an ou deux pour faire un carottage et essayer de trouver la glace ancienne qui peut nous dire quelque chose sur le climat du passé. Et avec ce climat du passé, on peut aussi mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec le réchauffement climatique dû à l'activité humaine.
Eh bien, merci Harry Zekolari. Moi, ça me fait toujours personnellement plaisir quand il y a un chercheur qui vient du plat pays et qui parle de nos Alpes. Je trouve ça assez génial. Alors, je rappelle que vous êtes donc le premier auteur de cette étude peu réjouissante. Vous êtes glaciologue et professeur de recherche associé au sein du département Eau et Climat à l'Université Libre de Bruxelles. Et voilà, bon voyage au pôle Sud et on passe au bref. Merci.
Un tout grand merci. Au revoir.
Avec une autre conséquence du dérèglement climatique, Stéphane.
Oui, selon une étude américaine, le nombre de cas de dengue imputables au réchauffement climatique augmente de 20%. Cette maladie virale, parfois mortelle, provoque fièvre et douleur. Elle est transmise par des moustiques tigres et est particulièrement sensible aux variations climatiques. Les températures idéales pour la propagation de la dengue se situent entre 20 et 29 degrés. Désormais, les moustiques sortent des zones tropicales et subtropicales et se retrouvent dans des régions jusque-là épargnées. Par exemple, selon cette étude, pas encore validée par des pairs, les cas pourraient tripler en Amérique latine dans les décennies à venir.
La personnalité serait la clé de la dépendance à la nicotine.
Et en tous les cas, chez les souris, pour l'affirmer, les scientifiques français ont construit une sorte de souris city, un laboratoire social semi-naturel dans lequel des souris génétiquement identiques batifolaient à leur guise. Ils ont découvert que la réponse à la nicotine dépend de traits de personnalité associés à la recherche de récompenses. Ces résultats montrent que les traits sociaux et individuels influencent la sensibilité à la nicotine, offrant des perspectives sur les mécanismes de l'addiction.
Et enfin, l'OFEV, l'Office fédéral de l'environnement, vient de publier la liste rouge des carabidés.
Ouais, les carabidés, vous le savez, sont une famille de coléoptères terrestres. Depuis la publication de la dernière liste rouge en 1994, la situation des carabidés s'est malheureusement détériorée en Suisse, puisque la moitié des 500 espèces évaluées sont menacées d'extinction ou sont même éteintes pour certaines. Une grande partie des espèces de ces catégories colonisent les milieux humides, les prairies ou pâturages maigres, des milieux eux-mêmes considérés comme menacés en Suisse, mais les forêts aussi hébergent de nombreux carabidés menacés. Une bonne nouvelle toutefois, la mise en place ces dernières années des mesures de protection freine ce recul.
La suite dans un instant avec vous, Bastien Confino. Merci Stéphane Delestro pour les brèves, on se retrouve demain. La suite, je disais, dans un instant avec vous, Bastien, toujours bonnet, toujours tout ça, on part à Berne.
Tout ça, je vous emmène voir une exposition qui s'intitule « Groenland, tout change ». Le bleu du ciel.
devrait y avoir droit. Le cœur en balançoire, un enfant se marre.
Bonsoir, c'était Bastoun et nous partons de ce pas du côté du Groenland. Enfin, pas tout à fait, puisque Bastien Confineau, vous avez visité le Groenland, mais depuis Berne.
Oui, grâce à la toute nouvelle exposition du Musée Alpin Suisse, donc une exposition qui fait une sorte d'état des lieux de tous les changements que ce territoire autonome danois est en train de vivre. Changements à la fois climatiques, industriels, miniers, agricoles, touristiques, etc. Il y a 10 salles qui sont consacrées à 10 thématiques différentes et en fait, ça permet de bien comprendre ce qui se joue là-bas, mais aussi finalement ce qui se joue dans les Alpes Suisses, puisque beaucoup de parallèles vont être établis entre les deux, entre le Groenland et les Alpes suisses. Et puis, de toute façon, des parallèles sont établis avec ce qui se passe dans le monde et tous les changements qu'on trouve dans le monde de manière plus globale. Je vous propose qu'on rejoigne Beat Ashler, le directeur du musée alpin suisse, pour une petite visite à qui j'ai demandé pourquoi une expo sur le Groenland dans un musée sur les Alpes suisses.
Il y avait un grand intérêt de la Suisse, surtout des experts, des professeurs, des glaciologues qui étaient toujours intéressés déjà au début du XXe siècle au Groenland. Ce sont les Alpes horizontales, Groenland. Et je pense que cette compétence pour la glace, pour les glaciers et pour le changement climatique, et ça a commencé assez tôt. Les chercheurs de la Suisse sont toujours très actifs en Groenland.
Comprendre mieux le Groenland, c'est mieux comprendre les Alpes en Suisse?
Oui, je dirais comprendre mieux le Groenland, c'est comprendre mieux le monde. Parce qu'on parle des processus de changement, c'est pas seulement le changement climatique, ce sont aussi toute la situation géopolitique, c'est l'intérêt pour trouver des ressources stratégiques, c'est le boom du tourisme qui crée des problèmes partout. Cette question culturelle, d'une identité culturelle, au Groenland vit une majorité des gens indigènes. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples au monde qui nous peuvent montrer comment ça peut se développer. En Australie, au Canada, ce sont toujours des minorités, des indigènes, mais au Groenland, c'est 80% les indigènes. Et il y a beaucoup de questions de postcolonialisme, de colonialisme, et je pense que Groenland, c'est comme mettre le monde sous le microscope et voir les différents changements, quelquefois très, très profonds, et de comprendre mieux comment on peut vivre sur cette planète, pas seulement dans la dimension du changement climatique.
Ok, on entre dans l'exposition. Un grand espace où il y a plein d'écrans devant nous, des scènes de vie quotidienne. On voit quelqu'un qui chasse, qui pêche, un groupe de rock, des chiens de traîneau.
Pour le moment, on voit des images du village à Kuzlorsak, 100 kilomètres au nord du cercle polaire. Et c'est un village de 400 habitants. Après aussi les changements énormes des glaciers qui font avec le changement climatique.
Il faut savoir qu'au Groenland, le changement climatique est beaucoup plus marqué que dans le reste du monde. Le réchauffement est beaucoup plus fort.
Oui, c'est ça. On parle de 4 fois plus vite.
Voilà, et pour rebondir sur ces aspects plus scientifiques, nous avons le plaisir de recevoir Samuel Jacquard. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes géochimiste, spécialiste en sciences de la Terre à la faculté de géosciences de l'environnement à l'université de Lausanne. Alors, vous étiez au Groenland ces 2 derniers étés pour des projets de recherche. Vous étiez dans quelle zone du Groenland?
Alors, le projet de recherche se déroule à l'extrême sud-ouest du Groenland, dans la région de Narsaq. Donc, c'est une agglomération qui compte environ 2-3 000 habitants.
D'accord.
Toute petite agglomération, comme la plupart des agglomérations, on va y revenir autour du Groenland. Beata Schler vient de nous le dire, hein, le Groenland se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète. Comment est-ce qu'on explique cet emballement au Groenland ?
Alors c'est juste, les surfaces continentales en général se réchauffent plus vite que le domaine marin. La raison est relativement facile à comprendre. Une fois qu'une surface est donc glacée ou couverte de neige, en fait, cette surface réfléchit à peu près 60-70% de l'énergie incidente. On parle de l'effet albédo. Une fois que cette glace ou la neige disparaît, les surfaces mises à nu dessous, donc que ce soit l'océan ou le substrat rocheux, en fait, va emmagasiner une grande partie de cette chaleur, induisant ainsi un réchauffement important. Mmh. Donc, en fait, il est lié à principalement la disparition des glaciers, mais aussi de la banquise qui couvre l'océan Arctique.
Alors, et cet été, quand vous étiez au Groenland, vous avez mené quel type de recherche ?
Alors, on travaille dans le cadre d'un projet multidisciplinaire. Nous, principalement, on travaille dans les fjords, donc sur des bateaux, pour essayer de comprendre le changement du fonctionnement des fjords, que ce soit dans sa physique, mais aussi dans ses écosystèmes, en lien avec le retrait des glaciers.
Si les glaciers fondent, les glaciers c'est de l'eau douce, hein, qui vont dans des fjords qui sont de l'eau salée, j'imagine que ça perturbe complètement les écosystèmes ?
C'est exactement ça. Donc, cet apport d'eau douce et en fait la manière dont cette eau douce est apportée. Il faut savoir que si dans le cadre d'un dans le contexte d'un fjord dans lequel se termine la langue glaciaire, bah, les eaux douces de fonte sont injectées dans les fjords au fond du fjord, alors qu'une fois que ces glaciers sont retirés, ces eaux de fonte sont transportées via des rivières, et ce qui va affecter de manière très importante le fonctionnement physique de ces fjords.
Et ça, c'est quelque chose qu'on observe en étant 2 étés de suite. Vous voyez les effets du réchauffement climatique sur ces écosystèmes ?
Tout à fait. Donc, bon, le changement est extrêmement rapide, hein. Évidemment, il faudrait peut-être d'autres campagnes pour vraiment observer les conséquences du réchauffement climatique. Effectivement, le climat a aussi une variabilité naturelle. Donc, c'est pas toujours évident de mettre en exergue ou en évidence les conséquences du changement climatique. Mais on voit très clairement que les glaciers fondent, mettant à nu des nouvelles surfaces.
Anne, je vous propose qu'on retourne à l'exposition.
On y va.
Elle commence par un espace destiné à l'Université de Berne.
Et nous commençons à Berne, à l'Université de Berne, parce qu'une spécialité de l'Institut de physique, c'est la recherche de la glace au Groenland et aujourd'hui aussi en Antarctique. Ils font les carottages. Et dans cette glace, il y a des boules d'air qui, avec l'air de peut-être une période de 120 000 ans, analyser l'eau, mais aussi l'air dans la glace. Et ça donne des informations de cette période, bien sûr, mais aussi pour modéliser le futur.
Alors, on entendait tout à l'heure Harry Zekolari, notre invité belge tout à l'heure, exactement, de l'Université libre de Bruxelles. Il nous parlait de ces carottages en Antarctique. Alors, des carottages de glace, ça sert à connaître le passé, mais comment ça marche, Samuel Jacquard ? Qu'est-ce qu'on peut lire dans les carottes de glace ?
Donc effectivement, les carottes de glace nous fournissent une archive climatique dans laquelle on peut reconstruire la composition de l'atmosphère en particulier, sa température, sa pluviométrie, la composition de ses aérosols et de ses gaz à effet de serre. Donc la neige s'accumule sur les glaciers au Groenland. Cette neige va se transformer en glace et lorsqu'elle se transforme en glace, en fait, va piéger des petites bulles ainsi que les particules, les aérosols, les petites particules qu'on trouve dans l'atmosphère. Elle est piégée dans la glace et en fait, on peut faire des forages et après lire l'histoire de l'évolution de l'atmosphère dans cette région au cours du temps.
Au cours du temps, mais ça fait combien de temps que la glace s'accumule comme ça ? Vous pouvez pas remonter des millions et des millions d'années de cette
Alors,
manière.
Alors, justement, on en parlait tout à l'heure, les glaces en Antarctique couvrent un intervalle de temps de plusieurs millions d'années. Au Groenland, l'accumulation de glace ou de neige est beaucoup plus importante qu'en Antarctique, mais aussi l'absence de glace en fait nous fournit des informations importantes. Il faut savoir qu'au dernier interglaciaire, donc la dernière période chaude avant l'ère glaciaire de ces 20 dernières milliers d'années, il y a à peu près 130 000 ans, bah, en fait, il semble qu'une grande partie du Groenland était en fait dépourvue de glace alors que les températures étaient similaires à celles d'aujourd'hui. Donc on parlait avant d'inertie très importante des glaciers, mais peut-être que ça signifie que d'ici quelques centaines d'années, peut-être milliers d'années, ben en fait le Groenland sera dépourvu de glace.
Mais ça veut dire qu'on va perdre un peu l'histoire de notre climat en perdant ces carottes glaciaires de Groenland ?
Absolument, donc il y a une initiative dont vous avez peut-être déjà parlé avec notre collègue Jérôme Chapelin, donc essayer de sauver, hein, d'archiver
mettre dans des coffres glacés
ouais, en Antarctique, hein, pour justement dans les premières archives qui vont disparaître évidemment dans nos Alpes, mais à terme c'est possible que la glace disparaisse aussi de manière importante au Groenland.
Béata Schler, le directeur du musée alpin suisse qu'on entendait tout à l'heure, mentionne aussi la modélisation du futur grâce à ces calottes glaciaires. Alors je vois bien la modélisation du passé, vous analysez ces petites bulles prises dans la glace, vous dites voilà, à telle période le climat était de telle nature et l'atmosphère était de telle nature. Mais comment on arrive à prévoir le futur avec ça ?
Donc, en fait, ces informations nous fournissent aussi des connaissances quant à ce qu'on appelle la sensibilité de la glace au changement climatique. Donc on peut essayer de prédire en utilisant des informations du passé. Il y a eu des épisodes durant lesquels la Terre s'est réchauffée de manière très abrupte, alors pas aussi abrupte et aussi rapidement qu'aujourd'hui, mais de manière abrupte. Et on peut essayer de comprendre comment la surface ou la calotte glaciaire Groenland a répondu à ces changements-là.
Ok, donc en observant le passé, on va créer des modèles qu'on essaye d'appliquer à la situation actuelle.
C'est juste, mais aussi souvent les modèles, en fait, les modèles sont des modèles physiques, hein, comme on l'a expliqué avant. On essaye de les valider en essayant de reproduire ce qu'on a pu mesurer dans les carottes de glace, donc les changements de température, de pluviométrie, comme je disais, pour valider ces modèles, puis après, ben, pour nous donner une plus grande confiance dans les projections futures de l'évolution de la calotte, par exemple.
Pour avoir une idée un peu de à quoi ça ressemble une carotte de glace, vous auriez pu venir avec une carotte de glace ce matin dans un sac à dos ?
Il aurait fallu que je me dépêche. Hein. Nous, on travaille pas sur les carottes de glace. Elles sont dans les congélateurs de l'Université de Berne. C'est vraiment une spécialité, une expertise de l'Université de Berne. Ça ressemble à un immense cylindre de plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres de long de glace. Donc, c'est vraiment un forage qui est effectué dans le glacier, un forage vertical qui est effectué, et puis plus on se trouve profondément dans la glace, bah, plus ces glaces sont vieilles.
Il fait pas un kilomètre à Berne, vous le coupez en tronçons.
Je vous espère, sinon ça fait des grands frigos.
Un tronçon d'un mètre, voilà. Ouais. Donc ouais. Beaucoup de tronçons.
Ouais, très bien. Eh bien, Samuel et Jacquard, on revient dans quelques instants en votre compagnie pour continuer la visite de l'expo à Berne. Eh oui, ça date un peu, mais quand même, voilà. C'était les rubettes, eh oui. Ça vous dit rien, les
rubettes. Rien du tout,
vous
n'êtes
même pas
nés
à ce moment-là. C'était Jukebox Jive. On repart visiter cette exposition Groenland Tout change au musée alpin suisse à Bernac, vous, Bastien.
Oui, on va continuer le parcours. Alors, je passe sur les salles qui sont consacrées aux aspects plus sociétaux, au tourisme, parce que c'est pas très CQFD, mais je vous invite quand même vivement à aller découvrir ça, parce que c'est passionnant, directement au musée alpin. On va s'arrêter plutôt sur la question de la faune avec le directeur du musée alpin suisse, Beat Achler.
Dans cette salle, on présente aussi un ours polaire.
Ah, je vais aller appuyer. Il y a un bouton. Moi, j'aime bien quand il y a des boutons. Je vais aller appuyer sur le bouton. Ah oui, ok. Ah oui, un ours polaire grandeur nature, empaillé. C'est un vrai.
Oui, c'est un vrai. C'est un animal qui a été tué en Canada par un Suisse. Et maintenant, c'est fait partie de la collection du Musée d'histoire naturelle de Berne. Et c'est une prête pour présenter ici. Et on est très heureux parce que l'ours polaire, c'est quand même comme un symbole. C'est un symbole pour le changement climatique. C'est beaucoup plus précaire. Et quand l'ours polaire fait la chasse, il a besoin de la glace pour trouver le phoque, par exemple.
Ah, parce qu'il chasse depuis la glace. Quand il nage, il chasse pas.
Oui.
Donc s'il y a plus de glace,
oui,
il ne peut pas survivre.
Oui, et maintenant, de plus en plus, il y a des ours polaires au sud de Groenland. Et là, dans l'agriculture de Groenland, ils ont des moutons. Et au sud de Groenland, maintenant, on a des discussions comme dans les Alpes suisses avec le loup. C'est l'ours polaire qui mange les moutons parce que c'est plus simple que les phoques. Mais la raison d'être au sud, c'est bien sûr parce que tout l'écosystème change pour l'ours polaire.
Avec une interdiction de le chasser ou...
Non, on peut voir aussi les chiffres. Pour les Groenlandais, c'est permis de faire la chasse. Donc, dans l'année 23, c'était 159 ours polaires qui étaient tués par la chasse.
Il y a des quotas aussi.
Il y a des quotas, oui, bien sûr. Et c'est pas permis d'exporter. Ça, c'est vraiment pour la population propre. La fourrure, mais aussi la viande.
Ouais. Vous avez goûté?
Non. J'ai goûté les phoques. Même dans un restaurant thaïlandais, il y a beaucoup de Thaïlandais en Groenland parce qu'il manque de main d'œuvre. Et dans ce restaurant, il a fait un phoque curry. Et c'était excellent. Et c'est un peu, pour nous, c'est un peu bizarre, mais de chasser le phoque, pour les gens là, c'est quelque chose le plus normal. C'est la terre, c'est la mer, non? Pour prendre tout la nourriture vient de la mer et c'est la chose la plus normale.
Et je vois aussi 4941 baleines chassées. Ça paraît surprenant. Beaucoup de pays ont interdit la chasse à la baleine, mais pas le Groenland.
Non, parce que c'est vraiment une partie de la nourriture traditionnelle. Et c'est assez bien monitoré. Mais l'Inde...
Pour sauvegarder la population,
oui.
Globalement.
Oui, absolument.
Ah ouais, ça déchire le cœur. Mais enfin bon, voilà. Samuel Jacquard, dites-moi que vous n'avez pas goûté de la baleine, si?
Si, bien sûr.
Ah, moi, je l'aurais fait, mais pour essayer, quoi. Mais,
ah oui, c'est ça. Alors, ouais. En fait, on mène nos expéditions sur un bateau dont l'équipage est groenlandais et nous cuisine, en fait, leur nourriture. Donc, on a mangé du phoque, de la baleine. Ça fait partie vraiment de...
Ça a quel goût, le phoque? Ah,
moi, j'ai pas trouvé très bon. Donc, c'est à mi-chemin entre la viande et le poisson. Franchement, c'est pas terrible.
Ouais.
C'est pas terrible. Même dans une sauce au curry vert.
Et l'ours, vous en avez goûté?
L'ours, je n'ai jamais mangé, mais j'ai vu qu'il était au menu de certains restaurants à Nouuk, par exemple. Donc c'est vraiment, comme je disais, c'est peut-être que nous, ça peut nous rebuter ou nous étonner, mais ça fait partie en fait de leur nourriture de tous les jours.
On va finir la chronique gastro pour revenir à la science, Bastien.
Vous l'avez pas eu dans votre assiette, mais est-ce que par contre, vous étiez au sud du Groenland, vous nous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous avez vu toute cette faune, ces ours polaires qui autrefois étaient au nord et qui maintenant arrivent au sud?
Alors moi, j'en ai personnellement pas vu, mais d'autres membres de notre équipe ont vu des ours polaires, que ce soit l'année passée ou cette année. Donc évidemment, c'est magnifique, mais ça pose de grands challenges, de grands problèmes pour nos analyses de terrain, notamment au niveau de la sécurité. Donc c'est vraiment tout un dispositif qu'il faut mettre en place, qui est beaucoup plus complexe. Et en fait, c'est intéressant parce que ces ours polaires dérivent en fait avec les glaces, les icebergs qui proviennent de l'est du Groenland et se retrouvent en fait un peu par hasard au sud-ouest du Groenland. Et effectivement, comme le mentionnait M. Bechler, avec foison de moutons mangés. Donc, ils ont la peine à partir. Donc effectivement, ça pose aussi pour les populations locales une problématique nouvelle.
Et les baleines, par contre, ça, on en voit beaucoup.
Alors, étonnamment, les baleines, on en a vu peu. Les phoques aussi. En fait, les phoques ont beaucoup été chassés. Et en fait, contrairement à l'Antarctique, ces phoques, comme ils ont été beaucoup chassés, en fait, ont développé une peur de l'homme. Donc, justement, on les voit très peu. Il y en a beaucoup, mais on les voit très peu.
On retourne dans l'exposition Groenland tout change. Avant-dernière salle, elle est consacrée à l'exploitation minière.
C'est bien sûr une question où les Russes, les Chinois, les Américains, M. Trump, qui a voulu acheter Groenland il y a quelques années. Donc, c'est une dimension globale des plus grandes du monde qui sont intéressés en Groenland. Et pas parce qu'ils s'intéressent pour les Inuits, mais parce qu'ils s'intéressent pour toutes ces ressources dans la Terre.
Et seulement maintenant, parce que autrefois c'était une terre un peu inaccessible, trop froide, trop compliquée d'aller faire des mines là-bas. Aujourd'hui, on a la technologie pour.
On a la technologie et c'est plus accessible aussi avec la terre sans glace maintenant, côté ouest. Et ça devient beaucoup plus intéressant maintenant, oui. Voilà, dans cette salle, c'est toutes ces questions de l'industrie minière, de trouver des ressources, surtout ces ressources stratégiques, les terres rares qu'on a besoin pour les computers, des magnets, des cellulaires, tout ça. Et maintenant, la grande production du monde, c'est en Chine. Et c'est la Chine qui contrôle presque toute cette industrie. Et en Groenland, on sait qu'il y a les plus grandes dépôts de ces matériaux.
Même plus qu'en Chine?
Oui, c'est vraiment très, très grand. Et donc, c'est un intérêt, bien sûr, de la Chine, des États-Unis et de l'Europe pour contrôler cette situation. Et c'est le gouvernement groenlandais qui a le droit de faire ce contrat. C'est pas le Danemark.
Donc le Groenland a une certaine liberté de décision. Samuel Jacquard, quand vous montez vos missions de recherche, vous négociez les autorisations avec qui? Avec le Groenland ou avec le Danemark?
Alors, principalement avec les autorités groenlandaises. Mm-hmm. En ce qui concerne l'exploitation des ressources, par exemple génétiques, sur terre et en mer. Après, pour tout ce qui est qui relève de la défense, par exemple, ou des affaires étrangères, mais évidemment, là, c'est le gouvernement danois qui est responsable, mais notre interlocuteur ou nos interlocuteurs principaux sont les autorités groenlandaises.
Mmh. Alors, Samuel Jacquard, vous êtes géochimiste, on entendait Beat Ashler qui nous disait qu'il y avait beaucoup de terres rares très, très convoitées au Groenland. Déjà, c'est quoi exactement ces terres rares?
Alors, ces terres rares, c'est un ensemble d'éléments chimiques, je crois qu'il y en a une vingtaine, sauf erreur, qui sont pas si rares que ça, de fait, et qu'on trouve notamment enrichis dans certains types de roches qui affleurent maintenant au sud-ouest du Groenland, en effet.
Mais pourquoi plus particulièrement au Groenland que dans les Alpes ou ailleurs?
C'est juste le type de roche, donc c'est des intrusions magmatiques, hein. C'est des roches très très anciennes qui ont plus d'un milliard d'années et qui fait que, puis évidemment, il y a des quantités énormes, hein. Il faut savoir que le Groenland est 50 fois plus grand que la Suisse, donc il y a ces roches, elles affleurent, il n'y a pas de végétation aussi, c'est très relativement facile de les exploiter une fois que la glace a disparu.
Ce qui est en train de se produire. Et les hydrocarbures, est-ce qu'il y a aussi du pétrole au Groenland ou
Il y a aussi du pétrole et du gaz au Groenland, notamment aux mers de Baffin, donc au nord-ouest du Groenland. Donc c'est des ressources qui ne sont pas encore exploitées pour différentes raisons, c'est relativement cher de les exploiter. Il y a encore de la glace, mais effectivement, lorsque la banquise et la glace disparaissent, non seulement ces minerais sont mis à nu, mais en fait, l'accès est aussi facilité pour transporter et raffiner ces ressources.
Un accès qui était quasiment pas possible côté est du Groenland, donc côté européen, parce que c'est là que s'accumulait beaucoup de glace, une glace qui est maintenant en train de disparaître.
C'est ça, donc la glace se fragmente de plus en plus, hein. Elle est transportée le long des côtes groenlandaises et en fait jusqu'à l'ouest par ce qui reste du Gulf Stream. Mais donc effectivement, beaucoup de ces fjords sont couverts par la glace, mais l'hiver, hein, dure de moins en moins longtemps. Et en fait, ces fjords maintenant sont accessibles 6-7 mois par année, alors qu'avant ils étaient accessibles peut-être 2 mois par année.
Voilà. Et ben voilà, encore des nouvelles à se dire, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? Parce que d'un côté, ça titille la curiosité, on a envie d'aller voir, et en même temps, ben voilà, il vaut mieux pas y mettre les pieds, hein, comme on dit.
Il y a un boom, c'est expliqué dans l'exposition, il y a un boom touristique très, très important.
Ouais. Merci Samuel Jacquard.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes géochimiste, spécialiste en sciences de la Terre à la faculté de géosciences et de l'environnement à l'université de Lausanne. Merci aussi à Béat Eschler, directeur du musée alpin suisse de Berne, musée qui présente donc l'exposition Groenland, tout change jusqu'au mois d'août 2026.
Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui je veux. Je serai seul. Tous les deux on se connaît déjà. On s'est vu de près. Souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle con. Moi je
Et voilà, en pâmoison devant Julien Doré. Bastien s'en remet pas à mourir sur scène. C'était cette reprise donc de Dalida que vous connaissez très bien. Eh bien, on va passer à la corne d'amont. Qu'est-ce que c'est? La corne d'amont, les mystères du cerveau. C'est publié chez Odile Jacob. Donc, c'est un livre. C'est un roman scientifique que vous avez lu pour nous, Stéphane Delétro, un polar consacré à la maladie d'Alzheimer. Vous nous faites le pitch?
Oui, alors, la femme d'un riche homme d'affaires alémanique est frappée par la maladie d'Alzheimer. Son mari lance un concours pour recruter le directeur d'un futur institut de recherche. 5 jeunes et brillants neuroscientifiques vont devoir résoudre 5 énigmes.
Alors, quel genre d'énigmes?
Alors, vous pourrez prendre note et me donner une réponse.
Je note.
Par exemple, dans la ville du C, trois petits points, Bridge et ses nombreuses tours, repose en paix éternelle le père de Mélog qui, à la recherche de la mort à l'envers, a peut-être créé le premier esprit mécanique.
J'ai rien compris.
Et vous devez trouver le nom d'une ville.
Cambridge, non.
Non, je vous donne quand j'allais dire, je donne pas la solution, vous le lisez, mais non, mais en fait, c'est Prague, hein, vous verrez pourquoi si vous le lisez. Les candidats doivent donc se rendre dans les villes évoquées par les énigmes et expliquer l'intrigante énoncée, mais ils vont être confrontés à un mystérieux ennemi.
Ah, bah, ça, alors, ça sonne comme du polar, en effet. Et la science dans tout ça?
Eh bien, elle est bien présente. Les infos sur cette terrible maladie, sur le fonctionnement du cerveau, de la mémoire, sont distillées au fil des pages. C'est une belle manière de faire passer des notions parfois complexes. Alors, une précision encore, la corne d'amont, c'est en fait l'ancienne appellation de l'hippocampe, hein, la structure du cerveau. et pas le cheval marin.
Et un mot sur l'auteur?
Pierre Magistretti, professeur honoraire de l'EPFL, que nous avons reçu à plusieurs reprises pour parler de ses recherches à l'EPFL. Ce matin, c'est donc à la fois le scientifique et le romancier que nous accueillons. Je lui ai demandé pourquoi avoir choisi cette forme, donc un roman, un polar.
Écoutez, je me suis engagé beaucoup au cours de ces 20 ou même plus 30 dernières années pour présenter au public non spécialisé les avancées des neurosciences au travers de la semaine du cerveau, par exemple. Et d'ailleurs, on a eu plusieurs occasions d'en parler, même dans cette émission. Et j'ai trouvé que c'était une autre manière de le faire, de lier dans un roman qui capte l'attention et qui donne aussi, disons, une histoire, on espère, captivante, de distiller justement des notions de neurosciences, de fonctionnement du cerveau, la mémoire, les cellules souches, l'intelligence artificielle, la maladie d'Alzheimer, bien sûr.
Et c'est un roman, il faut le préciser, qui est écrit à quatre mains?
Oui, c'est un projet que, en fait, nous avons mis en place il y a très longtemps. Même les premières idées datent d'il y a une trentaine d'années avec mon épouse. Après, évidemment, on était occupés en plein de choses, les enfants, le travail et autres activités. Et puis, on a quand même avancé assez régulièrement. On se retirait à la montagne, à Grand Montana, pendant 3-4 jours. On faisait que ça. Et puis, voilà, petit à petit, tout ça a pris forme. Et en fait, on l'a écrit en anglais. On avait l'ambition de toucher un public large, ce qui a rendu les choses un peu plus difficiles au départ pour trouver un éditeur, mais ce qui a été le cas. Donc c'est sorti l'année passée, en octobre 23, Amon's Horn, donc chez Other Press. Et puis tout ça a été facilité par Odile Jacob et ses éditions. Donc on a l'édition française maintenant, mais on a aussi l'édition italienne qui est sortie il y a quelques mois chez une marque de Feltrinelli.
Alors, la maladie d'Alzheimer, on l'a dit, au cœur de ce polar. Vous nous rappelez peut-être ce qu'est la maladie d'Alzheimer ?
Il s'agit d'une maladie neurodégénérative et tout simplement, si j'ose dire, les neurones meurent. Donc les cellules qui produisent et transfèrent l'information, on en a une centaine de milliards, eh bien ces cellules commencent à souffrir et dégénérer. Et évidemment, ceci affecte les fonctions cognitives, la mémoire, évidemment, qui est touchée au premier chef, mais aussi d'autres aspects neuropsychologiques. Et malheureusement, c'est une maladie qui aboutit... Malheureusement, évidemment, à la mort, parce que les neurones même vitaux pour la respiration, par exemple, et d'autres fonctions vitales aussi dégénèrent à terme.
Et la maladie laisse deux principales marques dans le cerveau?
Alors, c'est Alois Alzheimer qui a analysé le cerveau d'une de ses patientes en 1906 et qui a trouvé, avec des techniques de coloration tissulaire assez nouvelles pour l'époque, d'ailleurs, à noter qu'il s'agissait d'un psychiatre qui étudiait le cerveau dans ses éléments, on appellerait ça des neurosciences aujourd'hui, a vu ces deux types de dépôts, une protéine qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde qui semblait s'accumuler et puis des dépôts aussi qu'on appelle neurofibrillaires et dont on sait maintenant qu'ils sont dus à une autre protéine, la protéine tau. Donc les deux marques, si vous voulez, de la maladie d'Alzheimer du point de vue histologique sont justement la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau.
Alors pour les béotiens que nous sommes, on apprend à la lecture de votre livre qu'il y a deux écoles, les baptistes et les taoïstes.
Alors oui, c'est un peu un jeu de mots, bien sûr, mais surtout au début des études un peu plus poussées qui ont été faites sur cette maladie, disons dans les années 90, effectivement, un groupe de chercheurs pensait que c'était l'accumulation de bêta-amyloïde qui causait la mort des neurones, et d'autres pensaient que c'était des anomalies de cette protéine tau, qui est en fait une protéine structurelle des neurones qui causait la maladie. Et le problème, si j'ose dire, c'est qu'en fait, finalement, en tout cas pour ce qui est de la protéine bêta-amyloïde, malheureusement, c'était quelque part, si je pousse un petit peu le raisonnement, une fausse piste, dans le sens que il y a des formes génétiques de la maladie d'Alzheimer. Elles sont très rares, à peu près 2-3% au maximum. Et dans ces formes génétiques, il y a effectivement des mutations génétiques, justement, dans des processus qui produisent cette protéine. Donc on a dit, ah, si la forme génétique cause une accumulation d'une forme pathologique de cette protéine, ça veut dire que même les formes qu'on appelle sporadiques, donc celles qui ne sont pas génétiques, sont dues à ça. Et la recherche académique, en tout cas dans beaucoup de labos, et de l'industrie, s'est focalisée sur une idée simple. Si cette protéine est mauvaise, on va l'enlever, on va nettoyer le cerveau. Et il y a énormément de ressources financières, intellectuelles qui ont été mises ces 20 dernières années là-dessus. Et malheureusement, il faut quand même le dire, le résultat est assez décevant. Il y a 2 ou 3 molécules qui ont été approuvées par les agences régulatoires américaines, mais avec des effets vraiment assez modestes sur la progression de la maladie et surtout des effets secondaires assez sérieux, comme par exemple des hémorragies cérébrales. Donc, malheureusement, il s'est agi d'un engouement pour une piste qui n'est malheureusement probablement pas la bonne. On ne va pas dire que d'avoir beaucoup d'amyloïdes dans le cerveau est une bonne chose, mais ceci dit, il y a des centenaires qui ont une accumulation de cette protéine assez importante et qui sont, on va dire, aussi clairs d'esprit que vous et moi, on l'espère, et d'autres qui en ont très peu et qui sont malheureusement souffrent de démence.
Et voilà, et on ne sait toujours pas guérir la maladie d'Alzheimer.
Et non, malgré les milliards investis par les pharma et les milliers d'études publiées, on est toujours incapable de guérir cette maladie. Mais il y a des pistes de recherche prometteuses, à commencer par le manque de glucose dans le cerveau, Pierre Magistretti.
C'est exact. Alors, il y a 2 pistes, je crois, qui sont suivies. Et ce que je pense qu'il faut dire, c'est comme je pense pour le cancer, il y aura probablement diverses approches qui vont cibler différents processus et qui aboutissent à la guérison. En fait, notre cerveau consomme beaucoup de glucose. En fait, à peu près 20 à 25% du glucose de tout le corps est consommé par le cerveau, alors qu'il ne représente que 2% de la masse corporelle. Et dans la maladie d'Alzheimer et dans les maladies neurodégénératives plus généralement, il y a ce qu'on appelle un hypométabolisme cérébral, donc une diminution de la consommation de glucose. Alors vous me direz, oui, bien sûr, si on perd des neurones, eh bien, c'est comme c'est eux qui consomment le plus d'énergie, c'est normal qu'il y ait moins de consommation de glucose. Sauf que, et certainement c'est le cas pour la maladie d'Alzheimer, en tout cas un sous-groupe de patients, qui expriment une forme particulière d'une protéine qu'on appelle apolipoprotéine 4, APOE4. Je ne rentre pas dans les détails, mais si vous avez cette forme, vous avez 5 fois plus de chances de développer une maladie d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire que vous la développerez, mais vous appartenez à un groupe qui est vulnérable. Et en fait, presque 40% des patients qui souffrent d'Alzheimer ont cette forme de cette protéine. Si vous avez la forme 3, vous êtes neutre. Et si vous avez la forme 2, vous avez de la chance, vous êtes protégé. Alors, en fait, ces sujets, qui ne sont pas encore des patients, mais ces sujets qui ont la forme 4 de la polypoprotéine E, eh bien, présentent des diminutions de la consommation de glucose avant tout symptôme, avant toute perte de neurones. Et donc, c'est là une piste qui indique que l'hypométabolisme va rendre les cellules nerveuses, les neurones, vulnérables. Et c'est ici qu'entre en jeu l'autre type cellulaire principal du cerveau, que sont les cellules gliales.
Voilà, ça c'est l'autre piste qui vous tient à cœur.
Voilà, c'est celle sur laquelle j'ai travaillé pendant 40 ans, donc c'est pour ça que je suis attaché, mais je ne suis pas le seul. En fait, il y a encore une étude très récente qui vient de sortir dans Science d'un groupe américain de Stanford et du Salk Institute, qui démontre que ces cellules gliales, qu'on appelle astrocytes, que nous avons montré au cours des années 90, sont les cellules qui importent le glucose dans le cerveau. Eh bien, ces cellules astrocytaires, ces astrocytes, ces cellules gliales fonctionnent moins bien dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, l'idée, c'est de cibler ces cellules gliales pour protéger les neurones. Faire en sorte que ces astrocytes incorporent plus de glucose, produisent des molécules qui soutiennent l'activité neuronale. Et donc, cibler les cellules gliales pour protéger les neurones. Et c'est d'ailleurs l'objet des travaux d'une spin-off de mon laboratoire à l'EPFL qui s'appelle GliaPharm, qui a développé des molécules qui effectivement font exactement ça et pour lesquelles il y a des résultats très encourageants dans des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer.
Donc vous avez évoqué ces 2 axes, Pierre Magistretti, ces 2 axes de recherche. Est-ce qu'on est encore loin des essais cliniques?
Alors, peut-être, j'ai évoqué un axe principal, donc qui est, pour l'instant, qui est la question du glucose et des astrocytes. Et il y a aussi un autre axe qui est très intéressant, qui est l'inflammation. L'inflammation est probablement la cause ou la conséquence. En tout cas, elle est impliquée dans la neurodégénérescence. Donc, c'est une piste intéressante. Mais pour revenir à l'application clinique, alors, écoutez, on est encore loin, quelque part, mais assez proche. Je veux juste donner un exemple, sans exagérer dans la promotion, mais ces molécules que GliaPharm a développées vont passer en phase 1 l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire l'idée de chercher déjà si, quelle dose. Et ces molécules, tout ce qu'elles font, mais c'est déjà beaucoup, elles font rentrer plus de glucose dans le cerveau. Et à partir de là, on pourra démarrer des études pilotes chez des patients pour voir si, en faisant rentrer plus de glucose dans le cerveau, on va ralentir la maladie d'Alzheimer, voire la prévenir. Et ça, c'est des études qui prendront du temps, mais des preuves de concept pourraient déjà venir, je dirais, dans un courant 26 ou 27 au plus tard.
Merci Pierre Magistretti. Je rappelle le titre de son roman scientifique La Corne d'Amont, Les Mystères du Cerveau, publié aux éditions Odile Jacob. C'est la fin de ces QFD aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle dégustation de douceur de tous les goûts hein, scientifiques dans ces QFD. Mais pour l'instant, nous avons le plaisir de retrouver Julien Magnolet. Bonjour.
Bonjour.
De la féerie aujourd'hui dans l'air.
Et oui, de la féerie, parce que nous, enfin, ce monde occidental a un peu... enlever peut-être de la féerie des petites forêts, les petits lutins, les trolls qu'il y avait dans l'imaginaire. Mais attention, il revient. Ça dépend où, c'est vrai. Il persiste parfois. Mais il persiste notamment là où on l'attend pas, c'est-à-dire dans le numérique. Il y a des trolls, il y a des licornes, il y a des virus, enfin plein de choses qui, voilà, qui viennent un petit peu du
numérique. Qui font
rêver. Un peu aussi, ouais.
Très bien, vous écoutez RTS La Première et il est 11h.